Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai choisi pour aujourd'hui le thème « Rechercher d'abord le royaume de Dieu ». J'ai choisi Agé pour illustrer. Donc avant de parler du texte de Agé, je vais vous parler un peu du contexte. Donc, après le roi Salomon, Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, qu'on appelle Israël, parfois Éphraïm, dans la Bible de l'Ancien Testament, et la capitale était à la Samarie. Et le royaume du nord, comme ils étaient idolâtres, ils ont violé l'alliance de Dieu, dont Dieu les a détruits par les Assyriens, en l'an 721 avant Jésus-Christ. Donc à partir de là, il n'y a plus de royaume du Nord. Ils sont détruits. Le royaume du Sud, qui est gardé pour Juda, ça s'appelle Juda, après quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament. La capitale, ça se trouve à Jérusalem. Par contre, vous voyez, ça s'est détruit 135 ans après que le royaume du Nord était détruit. Pareil, le royaume du Sud, en ayant vu que le royaume du Nord était détruit par l'Éternel à cause de leur idolâtrie, leur infidélité, ils se sont dit, puisqu'ils ont le temple à Jérusalem, le temple, Dieu est là, donc Jérusalem était inattaquable. Mais comme leur cœur n'est pas à Dieu, et en fait ils offrent des sacrifices à Dieu que par formalisme, par légalité, donc Dieu n'est plus dans le temple. Donc du coup, c'est en 586 avant Jésus-Christ que Dieu a utilisé les Babyloniens, le roi de Babylone, qui a attaqué Juda et entré dans Jérusalem. Tout a été détruit par le feu et le peuple a été déporté à Babylone. Il reste très très peu de restes dans le Jérusalem. Voilà, c'est le contexte pour vous connaître. Agé, c'est un prophète. En fait, il y a aussi, vous savez, on parlait des grands prophètes et les petits prophètes. Les petits prophètes, il y en a 12. Ce n'est pas parce que les grands prophètes, ils sont meilleurs, plus intelligents que les petits prophètes. Simplement, c'est leurs textes sont plus petits. Pour ça, on sépare les grands prophètes et les petits prophètes. Voilà. Et les prophètes sont divisés en plusieurs catégories. Certains sont pendant le royaume Juda ou du Nord qui existait encore, et des autres sont après la déportation. Le prophète Agé et Zacharie étaient de la même époque. Et Jérémie était vers la fin, parce que Jérémie a été témoin de l'attaque de Jérusalem. Mais Jérémie a choisi de rester à Jérusalem. Il n'est pas parti au Babylone. Donc là, je vous montre un peu. Ça, c'est le temple qui est construit par Salomon, qui est en maquette. Après, c'était pareil, c'était splendide. Et avec l'invasion des Babyloniens, le temple est laissé vraiment détruit, vraiment en ruines. Alors, et c'est en l'an 538 avant Jésus-Christ, le roi de Perse qui a vaincu les Babyloniens, il a autorisé, c'est Dieu qui a éveillé l'esprit du roi Cyrus qui autorise par un décret le retour d'un premier groupe du peuple de Juda, donc juif, qui part de Babylone à Jérusalem. C'est en l'an 538 avant Jésus-Christ. Pourquoi la mission, c'est reconstruire le temple de l'Éternel. Vous avez vu, c'était en ruine. Et ce groupe comporte 50 000 hommes. Ils ont choisi de retourner à Jérusalem pour rentrer dans leur pays promis. Et ils sont sous la direction du gouverneur Juda qui s'appelle Zorobabel. C'est un descendant du roi David. Et le grand prêtre Josué, c'est un descendant de grand prêtre Aaron. Voilà, ça, pour vous montrer, maintenant, ils sont de retour. Donc, c'est... Ils sont retournés à Jérusalem pendant 70 ans. Vous imaginez que les maisons ont été détruites, les champs n'ont plus été labourés et tout. Quand ils sont rentrés, ils ont d'abord mis le temps pour reconstruire chacun leur maison. Pour qu'ils, et puis labourer, travailler dans le champ pour avoir de quoi loger et nourrir. Et c'est à partir du 7e mois de leur retour, ils commencent à bâtir l'autel. Vous voyez, l'autel, c'est l'autel pour brûler Holocauste. Ils ont d'abord construit l'autel. Et une fois qu'ils ont construit l'autel, ils ont pu commencer à offrir les holocaustes matin et soir, conformément à ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. Ensuite, pendant un moment, ils ont arrêté, et seulement deux ans après qu'ils sont revenus, ils ont commencé à poser la fondation du temple. Et quand ils ont fini de poser la fondation du temple, tout ceci, vous trouvez dans Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4 et verset 7. Et quand ils ont fini de poser les fondations du temple, les habitants autochtones qui étaient là quand ils sont partis, souvent c'est les Samaritains, sont venus proposer l'aide. Mais le peuple juda leur dit non, c'est le temple de l'Éternel, c'est notre Dieu, nous sommes son peuple, donc on veut pas, nous voulons pas que vous participiez à cette reconstruction. Du coup, les ennemis ont cherché vraiment à intimider ils ont cherché d'abord à les décourager, ensuite intimider, et finalement, ils ont décidé d'écrire une lettre, on peut dire de notre époque, recommandée vers le roi de Perse, ce n'est plus Cyrus, il y a un autre roi, pour leur dire que faites attention si vous laissez ce peuple qui sont en retour de l'exil reconstruire le temple. Une fois qu'ils ont reconstruit le temple, ils vont reconstruire la muraille, et après ils ne vous donnent plus, ils ne se sont plus soumis à vous et vous n'aurez plus d'impôts. Et voilà, donc le roi a fait rechercher les annales, et le roi a trouvé que c'est vrai, on a noté que ce peuple était révolté, tout ça. Du coup, le roi de cette époque a renvoyé une lettre recommandée aux ennemis d'Israël pour dire, oui, vous leur dites de cesser les travaux. Du coup, à partir de ce moment, ils ont cessé les travaux. Et ils ont laissé le temple avec l'autel et les fondations du temple. Ça s'est passé 16 ans. Et c'est à partir de 16 ans que Dieu a suscité le prophète Haggai pour leur parler. C'est pour ça que, donc vous voyez, à cause des intimidations, des obstacles, tout ça, ils ont simplement arrêté après l'autel, après les fondations du temple, ils ont arrêté. Et je trouve que Dieu est riche en patience. Dieu a attendu 16 ans pour les rappeler à l'ordre, pour leur dire que vraiment il est temps de reconstruire le temple. Et je vais vous lire le verset 1 à 6 ensemble. La première année du règne de Cyrus sur la Perse. Ah oui, je suis dans l'espace, pardon. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Haggai au gouverneur de Juda, Jorobabel, fils de Shaphatil, et au grand prêtre Josué, fils de Josadac. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend... Il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Haggai. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons l'ont brisé, quand ce temple est détruit. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Voilà, au bout de 16 ans de l'abandon, des travaux, de la reconstruction du temple, Dieu les rappelle à l'ordre à travers le prophète Agé. Ils ont oublié que avant d'être retournés à Jérusalem, ils étaient en exil à Babylone. Ils étaient vraiment loin de leur pays, loin du temple. Et là-bas, il n'y a pas de temple. Et par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, et aussi parce que Dieu l'a fait prophétiser par le prophète Jérémie que 70 ans après, ils vont être autorisés à retourner. Donc, il y a un petit reste qui est rentré, mais ils ont carrément oublié qu'ils sont le peuple de Dieu et la mission vraiment que Dieu leur donne. Le roi Cyrus l'a dit dans son décret. Vous rentrez, le peuple qui appartient à l'Éternel, vous rentrez pour reconstruire le temple, pour que le culte d'adoration puisse rétablir. Mais là, ils sont arrivés, c'est pour ça, Dieu a dit, ils ont dit leur propos, leur prétexte, c'est quoi? Le moment n'est pas venu pour construire le temple. Et Dieu leur dit, alors, c'est le moment que vous habitez vos maisons, avec les plafonds, avec tout, bien beau, et moi, mon temple est laissé à l'abandon pendant 16 ans. C'est pour cela que Dieu leur a dit, réfléchissez attentivement à votre conduite. Ils ont oublié ce peuple d'Israël. Ils ont été choisis par Dieu. Est-ce qu'ils sont plus intelligents, plus forts, plus puissants? Non, c'est par la grâce de Dieu, ils ont été choisis. Et quand ils étaient esclaves en Égypte, Dieu les a guidés à travers Moïse pour sortir d'Égypte, pour aller vers le pays promis. Et déjà, dans le désert, Dieu, déjà à l'époque, Dieu leur a dit, Dieu les a choisis pour qu'ils soient son peuple. Et Dieu veut être leur Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle de l'époque, on peut dire, c'est un temple comme des ambulantes. Ça peut reconstruire, c'est un peu comme la tente. C'est un endroit, le tabernacle, ça symbolise que la maison de Dieu, que Dieu veut vraiment habiter parmi son peuple, symboliser la présence de Dieu parmi eux. Et vous voyez dans les schémas, c'est le tabernacle, à chaque fois ils sont campés, le tabernacle est au centre et le peuple s'est campé autour du tabernacle. Et petit à petit, quand ils sont entrés dans la terre promise, le roi David voulait construire un temple pour Dieu, mais Dieu lui a dit, tu as les mains sales parce que tu as fait beaucoup de... Pas les mains remplies de sang, ce n'est pas le moment. Là, c'est Dieu qui lui a dit à David, ce n'est pas le moment pour toi que construire un temple pour moi, ça sera ton fils qui est un roi de paix, qui vraiment, on voyait que dans le règne de Salomon, vraiment, c'est la prospérité, la paix. Et Dieu l'a dit, c'est le moment de construire son temple. Et ce temple, vous l'avez vu, jusqu'à 586 avant Jésus-Christ. Donc, ça a été détruit par les Babyloniens. Voilà. Donc, maintenant, le peuple du Juif qui sont de retour, leur prétexte, c'est quoi? Le moment n'est pas venu. Mais le moment est venu pour eux, pour qu'ils soient bien dans leur maison, bien chauffés, bien tout. Mais bon, le temple de Dieu, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Et c'est pas grave, parce que le moment n'est pas venu. Mais voilà, et c'est pour ça que Dieu leur a dit aussi, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Tout ce que vous faisiez, vous récupérez pas beaucoup, parce que Dieu ne les a pas bénis. Leur attitude, leur conduite ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas vraiment conforme à ce que Dieu leur demande. Cela montre bien, Ils n'ont pas vraiment au milieu, au centre de leur vie, leur préoccupation, c'est plutôt vers leurs affaires, leurs propres affaires, leurs propres intérêts. Voilà. Et vous allez me dire que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec le temple ? Alors, le temple, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, nous étions, avant notre conversion, avant que nous acceptions Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous étions sous l'esclavage du péché, comme l'apôtre Paul a beaucoup bien détaillé dans Romains. Donc, c'est grâce à, comme Dieu a utilisé Moïse pour libérer le peuple juif de l'esclavage physique du pharaon Égypte, Dieu, à travers Jésus, nous a libérés de l'esclavage du péché. Donc, nous sommes maintenant libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes devenus le nouveau Israël. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu veut être notre Dieu. Et entre notre vie de conversion, à partir de notre conversion jusqu'à notre départ de ce monde, Dieu nous a, en fait, nous êtes en exode, comme le peuple Israël. Et Dieu nous a promis la terre promise. La terre promise n'est pas ce monde-là. La terre promise, c'est le monde nouveau qui est beaucoup décrit dans Apocalypse 21. C'est un monde nouveau, sans péché, sans la mort. Voilà, donc c'est pour cela que... Alors, nous, aujourd'hui, Dieu est notre Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le temple de Dieu ne signifie pas un bâtiment. Parce que l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que le Saint-Esprit habite en chacun de nous, on est le temple du Saint-Esprit. Alors, réellement pour dire, qu'est-ce que ça veut dire laisser à l'abandon le temple de Dieu? Pour nous aujourd'hui, c'est que, pareil, est-ce que nous sommes comme le peuple juif de l'époque? Nous sommes plus intéressés, préoccupés par nos propres affaires, et pas intéressé par les affaires de Dieu, du royaume de Dieu, puisque nous êtes déjà, nous faisons partie du royaume de Dieu. Est-ce que, comme on a chanté tout à l'heure, est-ce que nous avons mis Jésus au centre de notre vie? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? D'accord, c'est très bien, mais ça rentre là et puis ça reste là et nous ne mettons pas en pratique. Parce que Jésus, il a dit, celui qui écoute ma parole, qui la met en pratique, il est vraiment mon disciple. Est-ce que le chrétien aujourd'hui, est-ce que si nous laissons le temple à l'abandon, ça veut dire que vraiment nous préoccupons vraiment beaucoup plus nos propres intérêts pour, comme les juifs de l'époque, s'occuper de nos maisons, que ça soit beau, que ça soit bien décoré, mais le temple de Dieu, c'est pas grave, c'est laissé à l'abandon. Alors, pour nous, Jésus l'a dit dans Matthieu. Jésus nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Pour moi, concrètement, pour nous aujourd'hui, rechercher d'abord le royaume de Dieu, c'est vraiment mettre en pratique le premier commandement, aimer Dieu, adorer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et tout mon être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre chaque jour un temps à part. Vraiment, le mieux, ça sera le matin. Commencer la journée avec le Seigneur, avant de commencer la journée avec les hommes. Parce que nous voyons que, vraiment, nous sommes nés de nouveau, nous sommes notre vie spirituelle doit être nourrie, puisque nous prenons chaque jour notre petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner spirituel, c'est aussi indispensable. Donc, si, voilà, ça, c'est vraiment un temps à part. Même un quart d'heure, c'est pas grave. C'est, on peut commencer petit. Lire la Bible. La Bible nous parle de Dieu, de la personne de Dieu. Si on veut obéir à la volonté de Dieu, on a besoin de connaître Dieu lui-même, sa personne, ses attributs, ses œuvres, ses promesses. Si nous ne connaissons pas bien, nous ne pouvons pas savoir comment l'obéir. Méditer vraiment la parole de Dieu. Comme le psalmiste 1 qui dit « Aimer la loi de l'Éternel, méditer jour et nuit ». Ensuite, prier, confesser nos péchés et laisser vraiment la parole de Dieu habiter en nous toute la journée. Commencer la journée comme ça. En fait, prier sans cesse, comme l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Ce n'est pas vraiment à chaque fois on prie tout le temps sans aller au travail, mais se garder l'idée que Dieu est avec nous vraiment dans notre tête pendant tout ce que nous faisons, avoir conscience que vraiment Dieu est avec moi. Je crois Samuel l'a partagé quand on était en mission, il disait qu'il voit que Dieu est avec lui tout le temps. Voilà, donc vraiment. Et deuxième comment, c'est aimer mon prochain comme moi-même. À l'interne, c'est entre l'Église. Donc, on a dit tout à l'heure que nous, entre frères et sœurs, que nous puissions aimer les uns les autres, voir les besoins des autres, soutenons-nous les uns les autres. Et à l'extérieur, c'est partager la bonne nouvelle, parler de l'Évangile à tous nos proches, à toutes les personnes que Dieu met autour de nous. Mais c'est vrai que la plupart du temps, parler l'Évangile à nos proches, c'est plus difficile que d'aller en mission à l'étranger, parler à des gens qu'on connaît pas. Ça, j'avoue que voilà. Mais on est quand même obligé. On a la famille, les membres de la famille qui sont pas convertis, donc quand même, on doit commencer par les proches. Je me souviens quand en 2004, j'étais convertie. J'étais tout feu tout flamme, donc j'ai acheté des Bibles, j'ai donné cadeau à mon frère, à ma belle-mère, à mon cousin. Mais bon, j'ai dit à mon frère, c'est un cadeau très nourrissant. Mais quand il a vu c'était la Bible, il était déçu. Mais bon, après j'ai annoncé l'Évangile à mon frère, à mon cousin. Mais ils sont après ils rejettent. Donc ils m'ont dit arrête de me dire ça, sinon on vient plus te voir, on vient plus chez toi. Donc du coup bon, mais moi je l'ai fait. Je dis au Seigneur, je l'ai fait. Moi, j'ai fait ma part. J'ai semé. Si ce n'est pas encore un bon terrain, on attendra. Voilà. Donc vraiment c'est pour ma mère c'est pareil. Elle est tellement, je ne sais pas, à un moment donné, elle nous donne tous les Bibles, elle ne veut plus garder la Bible chez elle, et elle nous interdit de parler de Jésus à elle et tout. Mais bon, ça, c'est la réaction des gens, des proches, ça m'attriste, ça attriste mes sœurs et tout. Et on continue à prier pour... Mais il ne faut pas être découragé. Bah, justement, quand mon proche refuse, on tourne vers les autres personnes. Et vraiment, je remercie le Seigneur que pour les malades que j'ai vus là à mon cabinet, maintenant ça fait 2 ans, j'ai arrêté. Et récemment, je reprends mon bâton pèlerin, je fais les visites chez les malades. Il y a 2 personnes qui acceptent d'étudier la Bible avec moi. Donc c'est vraiment gloire à Dieu, quoi. Avec j'ai prié sans cesse pour elles. Donc hier au Mardo. J'ai parlé de l'Évangile avec une jeune. C'est bien, le Mardo, ça peut servir de Dieu d'Évangile. Comme il pleut, on ne peut pas rester dans le jardin. Voilà, et vraiment, et ce que je souhaite, c'est que chacun de nous vraiment recherche vraiment d'abord le royaume de Dieu. Merci à Esther tout à l'heure qui a partagé. Ça se voit bien que vraiment Dieu prend soin d'elle, donc lui donne le travail. Et puis voilà, ensuite, je pense qu'elle est reconnaissante, elle prend du temps pour vraiment rechercher vraiment le royaume de Dieu. Et mon souhait à moi, c'est que chacun de nous puisse grandir ensemble, puisse mûrir ensemble, comme on a chanté, à ressembler à Jésus. Parce que Dieu nous a choisis ensemble, on peut pas... Une personne, une chrétienne tout seule mature, ça ne sert pas à grand chose. Que tout le monde soit mature ensemble, que vraiment mon rêve, on peut dire, c'est vraiment que chaque frère et sœur soit vraiment zélé pour aller à l'étude biblique, aller à la réunion prière, aller vraiment à tous les sorties d'évangélisation et tout. Pas seulement limité à certains sorties. Et que comme ça, on peut vraiment, une église qui prie, c'est une église qui est vivante. Une église qui ne prie pas, je suis désolée de la phrase que je vais dire, c'est une église qui est morte. Donc, je souhaite que vraiment l'église de Saint-Maur puisse être une église vivante et vraiment que, comme Dieu a réveillé l'esprit du peuple de Juda qui est rentré de Babylone à Jérusalem, vraiment, je prie le Seigneur de réveiller l'esprit en chacun de nous, que vraiment notre réunion de prière soit remplie de vraiment de fervents adorateurs pour prier. Là, on verra vraiment, il y aura vraiment un réveil dans quand nous lisons l'histoire des réveils de chaque église, ça commence avec vraiment la prière. La prière est vraiment vraiment importante. Voilà, Dieu, donc, après 16 ans de léthargie, de somnolence, il dit que le temps n'est pas venu. Dieu, maintenant, leur a envoyé Agé pour leur parler. Donc, je vais vous lire Agé, chapitre 1, 7 à 11. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez-vous le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre des produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile et les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Voilà. Dieu, à travers Agé, leur a vraiment donné vraiment l'encouragement, l'exhortation pour qu'ils se mettent au travail, pour reprendre les travaux, pour reconstruire le temple. Et là, une deuxième fois, Dieu a dit encore, réfléchissez attentivement à votre conduite. Je pense que c'est aussi ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, elle marche vraiment pas seulement, elle ne parle pas seulement au peuple d'Israël de l'époque, mais parle toujours à nous, le nouveau peuple Israël. Et Dieu leur a dit, donc on a vu que Dieu leur a dit, s'ils construisent, reprennent les travaux du temple, Dieu aura de la joie, il sera honoré, parce que ils vont le remettre à la bonne place, ils vont recentrer leur priorité, ils vont remettre Dieu dans la priorité, la première place de leur vie, de leur cœur, ils vont vraiment regarder, obéir à Dieu, craindre Dieu comme vraiment le maître, lui donner la place qu'il le doit, dont Dieu est glorifié. Et c'est la même chose pour nous, parce que vivant dans le monde d'aujourd'hui, il y a trop de tentations qui nous attirent vers des choses, je vais dire, vaines, futiles. L'internet, c'est bien, mais parfois, quand on plonge dedans, on peut rester 4 heures, 5 heures, regarder des choses qui, pour moi, je trouve ça sert pas à grand chose et on perd le temps dedans. Mais si on prend une heure à lire la Bible, rester en communion et prier avec Dieu, c'est très fructifiant pour chacun de nous, quoi. Donc vraiment, revenez à vraiment à rechercher le royaume de Dieu. Et le jeudi dernier, je suis revenue du travail, j'étais vraiment découragée, morose, parce que depuis que je suis j'ai ce nouveau poste médecin scolaire, je ne vois que les élèves qui ont des problèmes, qui sont pas doués pour apprendre ou qui sont pas doués, qui ont des troubles de comportement. Mais franchement, c'est toujours des choses négatives. Et je suis tellement attristée, découragée. Même je fais le diagnostic, je fais le constat, mais je ne peux pas les aider à être plus performants et tout ça. Et vraiment, quand je suis rentrée, je dis, j'étais franchement comme ça. Mais après, je me suis à moi-même, je dis, non, tu ne pas laisser affaibli par ça, abattu, recadrer ton regard vers Jésus-Christ. Et voilà, je regarde vers le royaume de Dieu et je prie et je chante et les louanges et je dis au Seigneur, bah, toutes ces personnes que je peux pas aider concrètement, je te les remets en prière et tu vas agir dans leur... Et ça m'a aidé à ressortir de cette morosité, abattement, parce que je pense à toutes ces choses négatives, je vais rester... C'est pour ça que certains médecins, ils sont allés en dépression, parce qu'ils ont vu tellement de patients morts, ouais, souffrir et tout. Il y en a, et les médecins, ils n'ont pas... Soit ils sont pas très forts psychologiquement, il y en a qui font des dépressions. Hein. Parce que quand vous voyez que des gens comme ça, vous êtes vraiment atteint un peu par ça. Bon, je remercie le Seigneur parce que je sais qu'avec lui, nous sommes en exode ici, dans notre patrie, c'est le nouveau ciel, nouvelle terre. Là, il n'y a plus de problèmes, plus de handicap. Donc c'est super, quoi. C'est pourquoi Jésus nous dit rechercher d'abord le royaume de Dieu. C'est franchement, c'est une remède contre toutes les découragements, même contre toutes les dépressions. Donc là, réfléchissez. Alors, la réaction du peuple, c'est leur obéissance. Donc là, c'est le verset 12 à verset 15. Jorobabel, fils de Shéthil, le grand prêtre Josué, fils de Josadac, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Jorobabel, fils de Shéthil, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent au travail, à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Ici, Josué a donné la date, ça veut dire que 21 jours après avoir reçu l'exhortation du prophète, ils se sont mis au travail. Ils n'ont plus attendu des années et des années. Ils ne disent plus que le moment n'est pas venu. Pour eux, c'est vraiment le moment. Donc, vous voyez, la réaction, cette fois-ci, la réponse est rapide. Parce que Dieu à de nouveau éveiller leur esprit. Donc là, la promesse que Dieu leur dit, c'est dans le verset 13. « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » La présence de Dieu avec eux, c'est vraiment le plus précieux que tous. Et pour nous, c'est pareil, parce que Dieu est la source de toute bénédiction. Si Dieu n'est pas avec nous, si on veut toujours que ces bénédictions, ce n'est pas la source, ce n'est pas Dieu. C'est qu'on ressemble à les autres adeptes des autres religions. ils demandent toujours à des idoles des choses, comme les Chinois, ils ont un dieu de bonheur, parce qu'ils veulent le bonheur, ils ont des dieux de richesse, ils veulent la richesse, et nous, le dieu, notre dieu à nous, vraiment, c'est, il est la source de toute bénédiction. S'il est avec nous, tout ce que nous faisons, nous réussissons. Bien sûr que c'est en l'obéissance. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous deux passages dans la Bible pour dire que vraiment l'obéissance est très très importante pour chaque enfant de Dieu. Déjà, nous savons que les parents sont très contents quand les enfants physiques obéissent à leurs parents. Ou même à l'école, quand les élèves obéissent aux maîtres, aux enseignants, c'est vraiment bien. Et là, mais nous, c'est notre obéissance à Dieu, c'est vraiment indispensable, c'est ce que Dieu demande. Je vois avec vous le psaume 40, versets 7 à 9. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Tout ce passage parle de Jésus, qui est vraiment le Fils de Dieu, qui a fait toute la volonté de son Père. Après, c'est dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, c'est au roi Saul, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Je vous explique un peu le contexte. À l'époque, le roi Saul, c'est le premier roi que les Israélites voulaient et Dieu l'a choisi. Mais à deux reprises, le roi a désobéi à l'ordre de Dieu. La première fois, le prêtre Samuel lui a demandé d'attendre 3 jours que le prophète Samuel arrive pour offrir l'holocauste à Dieu. Mais en l'attendant, il voit que Samuel tarde à venir et il était entouré des soldats philistins. Donc, il a eu très peur, le roi. Du coup, il a commencé à offrir l'holocauste lui-même. Dans l'Ancien Testament, les seules personnes qui peuvent offrir, qui ont le droit de offrir l'holocauste, c'est les prêtres. C'est la descendante de Aaron. Même les Lévites n'ont pas le droit. Donc, alors le roi n'a pas du tout le droit de faire ça. Donc du coup, quand Samuel est arrivé, Samuel lui a dit, « T'es tellement stupide, pourquoi tu m'as pas attendu ?» Donc là, Dieu l'a pardonné. Mais la deuxième fois, cette fois-ci, Dieu lui a donné l'ordre de vaincre un peuple amalécite et lui a dit, « Tu vraiment que tout le monde soit tué, tout le peuple et tous les animaux. » Le verset biblique, c'est voué à l'interdit. Alors, Dieu lui a donné au roi Saul la victoire sur les Amalécites. Mais, quand ils ont vaincu, quand ils ont remporté la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé une partie des veaux et des animaux gras. Et il a laissé en vie le roi Amalécite. Alors, quand Samuel est arrivé, Samuel dit, qu'est-ce que j'entends? Les bruits des animaux. Et alors, à ce moment-là, le roi Saul, s'il s'excuse, s'il se confesse, c'est bon, mais il cherche encore à justifier. Il dit que j'ai gardé tous ces animaux pour faire offrande à Dieu. C'est pour ça qu'ici, que Dieu lui répond. L'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Et pareil, le roi l'Amalécite, il finit par Samuel, le prophète Samuel, qui l'a tué. Vous voyez, Dieu demande, à l'époque, c'est au roi, mais à tous ses enfants. L'obéissance, c'est vraiment, on va dire, le ABC, quoi. C'est tout ce que Dieu demande, c'est obéissance. Vous vous souvenez un peu dans le jardin Éden, qu'est-ce que Dieu demande à Adam? Ouais, ne pas manger le fruit qui permet à consent du bien et du mal. Adam a défailli. Par contre, Jésus n'a pas défailli. Jésus, pendant les 3 tentations dans le désert, il a vaincu les tentations et de toute sa vie, il a vraiment vécu une vie d'obéissance. Vous pouvez aller lire dans chapitre Philippiens 2, c'est vraiment super, donc il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné la place, le nom au-dessus de tout nom. Voilà, donc vraiment que vraiment chacun de nous, c'est sûr que dans notre société, pareil d'aujourd'hui, je vois bien les enfants que je reçois, les élèves, souvent ils sont pas très obéissants aux parents. Ils sont vraiment, les parents bavent. Et moi, je trouve que on est dans un siècle vraiment de tout ce que la Bible nous dit. Hein. Dans les temps dernières, les hommes deviennent révoltés et tout ça, désobéissants aux parents et tout. Mais voilà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, en tant que parents chrétiens, je pense que vraiment... apprendre à nos enfants à nous obéir, vraiment ça c'est vraiment important. Je remercie le Seigneur, mes enfants sont obéissants et vraiment je pense que si nous enseignons vraiment la parole de Dieu dans leur vie, vraiment des tout petits, ils vont vraiment apprendre à, ils voient en nous notre obéissance envers Dieu, le Père. Ça leur donne envie de nous imiter et de vraiment obéir aussi à vous qui êtes père ou mère. Si nous sommes un bon modèle, bah il y a pas de problème quoi. Les petits enfants, les parents sont leurs idoles. Hein. Ils imitent tout ce que les parents font. Son modèle, pas idole, pardon. Voilà. Voilà pour conclure donc. À l'époque, Dieu a réveillé l'ensemble, l'esprit du peuple de Dieu pour qu'il remette au travail du temple. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu nous donne son Esprit Saint. C'est encore plus précieux, plus meilleur qu'à l'époque. L'Esprit Saint habite en nous, tout le temps, 24 heures sur 24. Vraiment que nous soyons reconnaissants envers le Seigneur et obéissant, et que vraiment chacun de nous s'examine soi-même. Comme dit Dieu tout à l'heure, réfléchissez attentivement à votre conduite et à nos paroles aussi. Est-ce que, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit seulement les chrétiens de dimanche, mais qu'on soit chrétien chaque jour, 24 heures sur 24. Ce n'est pas facile, je vous le affirme, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu, on peut y arriver. Si on a un cœur à obéir, Dieu nous aidera. Et c'est sa joie, il a dit au peuple d'Israël. Ça lui fait la joie et ça le glorifie. Donc vraiment que chacun de nous, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les mois, faire un bilan de notre état spirituel et remettre à Dieu, laisser vraiment guider par le Saint-Esprit, que nous soyons sensibles à la correction du Saint-Esprit. Si Dieu nous pointe sur quelque chose qui est pas bon, bah, ne pas imiter le roi Saul, justifier encore notre conduite, mais confesser le péché et recevoir le pardon de Dieu et recommencer de nouveau. Vivons vraiment. Jésus nous a dit, celui qui est, je vous libère et il nous a libéré de l'esclavage du péché. Donc ne retournons pas vers vraiment le péché. C'est, servons-nous, comme dit l'apôtre Paul, que plutôt être esclave du péché, plutôt être esclave de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, amour et juste. Il rendra à chacun ce que nous faisons. Donc chacun aura un compte à rendre à Dieu. Voilà, donc c'est vraiment, je vous exhorte, vous et moi, vraiment que nous recherchons tous ensemble d'abord le royaume de Dieu et que nous grandirons tous ensemble qu'il y a une réveil spirituel à l'église de Saint-Maur. Prions ensemble. Abba Père, merci vraiment pour ta parole. Comme tu l'as dit, ta parole est une semence incorruptible. Merci pour cette semence que tu as mis dans notre cœur. Merci pour ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de justice que tu as donné et que nous te demandons pardon pour les manquements, pour toutes les négligences que nous avons commis pendant la semaine. Et nous te vraiment demandons, nous te prions de nous guider par ton esprit et nous donner un cœur obéissant et reconnaissant qu'on nous puissions vraiment appliquer tes deux commandements. Aimer toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, aimer nos prochains comme nous-mêmes, pour que nous puissions te glorifier et être la source de bénédiction pour toutes les personnes que tu mets autour de nous. Bénis le reste de la semaine et jusqu'à le dimanche prochain que nous voyons ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.